What's going on? Bienvenue à la réussite de l'échec, le show qui t'encourage à échouer afin de changer ta perspective à propos de l'échec pour réaliser tes rêves et tes objectifs. I'm the host, Cilla, and today, got a special guest in the building.
Je reçois la thérapeute de la lingerie, Delphine. Delphine, bienvenue.
Merci.
Est-ce que tu peux te présenter, Delphine, pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas, qui ne seraient pas familiers avec également ton projet Maison Finou?
Alors oui, bien sûr. Donc déjà, merci de me recevoir. Donc je m'appelle Delphine, je suis créatrice de lingerie. Le concept de ma marque, donc Maison Finou, c'est de se focaliser sur les besoins individuels et de proposer des modèles qui s'adaptent à toutes les morphologies, y compris les personnes avec un handicap. Donc comment ça fonctionne? Je fais aussi bien du sur-mesure, on part de zéro, on prend les mesures de la personne, et donc là c'est vraiment un temps d'échange, d'écoute sur plusieurs mois parfois, où en fait on se rencontre plusieurs fois, on met au point un modèle de A à Z ensemble, en tenant compte de son histoire, de ses complexes, ou des choses qu'elle a plutôt envie de mettre en valeur, si elle a des frustrations ou non, ou si elle a un événement particulier. En tout cas, c'est un travail sur la globalité. Donc ça, c'est une première façon de fonctionner. Ensuite, il y a la demi-mesure où là, on part de modèles qui existent et pareil, on vient ajuster sur le corps de la personne. Et enfin, il y a aussi une petite ligne en prêt-à-porter où les gens peuvent commander directement sur Internet, sur le site, et aussi personnaliser certains modèles également. En fait, le concept, c'est vraiment d'être dans une démarche de co-création. Tout est fabriqué à la main à Paris, à la demande.
On est sur du made in France.
Ouais, exactement. Artisanat, tout ça. Non, mais voilà. En tout cas, c'était une volonté aussi de ma part de faire revenir à un savoir-faire qui s'est pendant trop longtemps délocalisé, qui s'est un peu perdu. Et ouais, garder ce savoir-faire ici et moi-même coudre les modèles, etc.
Donc, c'est toi qui les couds.
Ouais, exactement, ouais. Et quand il y a trop de travail, du coup, je délègue à des couturières indépendantes qui sont aussi à Paris et en Ile-de-France.
Ok, donc tout reste sur le sol.
Exactement. Non, le but, c'est que ce soit vraiment de la proximité, de l'échange, vraiment de l'humain. Je veux surtout pas perdre ça. Et l'avantage d'avoir tout en intégré, ça permet aussi d'avoir cette flexibilité et de s'adapter en fait à la demande. Et du coup, de se focaliser vraiment sur le besoin de la personne et lui créer un modèle qui lui correspond et qui lui ressemble.
Ok, on va y revenir tout de suite par rapport aux besoins. Parce que pour moi, qui suis un garçon qui ne porte pas de sous-vêtements, je connais plein de marques de sous-vêtements. Donc en fait, quand tu me dis qu'il y a un besoin, je me dis « mais pourtant, il y a telle enseigne ». Donc j'aimerais que juste après, tu puisses nous expliquer comment tu as identifié le besoin spécifique pour la création de Maison Finou. Mais ma première question, ça serait justement, comment est-ce que Maison Finou, ça s'est créé dans ta tête,
okay,
au niveau de l'imagination, okay. Parce que je sais qu'il y a une histoire par rapport à la famille, etc. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
Du coup, je trouve que les deux questions se rejoignent.
Ouais, carrément.
Je vais faire une seule réponse, mais qui risque d'être un peu longue. Je plaisante. Comment, en fait, la genèse, entre guillemets, de Maison Finou, c'est effectivement une histoire de famille. C'est en étroite, en lien avec mes grands-mères. Du coup, j'avais ma grand-mère Odile qui était passionnée de lingerie, enfin, qui l'est toujours d'ailleurs, et qui m'a vraiment transmis cette passion, qui organisait des réunions tupperware. Je pense qu'elle avait une certaine frustration parce qu'elle a eu trois filles, mais aucune d'elles ne s'intéressait à la lingerie. Et je pense que du coup, ça a sauté une génération et c'est par rapport à moi que du coup, il y a eu cette transmission. Donc, il y avait cet attrait autour de la lingerie. Et en parallèle de ça, j'avais mon autre grand-mère, du coup, Odette, qui a eu un cancer du sein avec une ablation. Et du coup, un rapport à la lingerie, pardon, beaucoup plus fonctionnel. Et je sais que moi, déjà à l'époque, je me disais, c'est marrant quand même, c'était en plus deux femmes très, très différentes. Il y en avait une qui était très sensible, très coquette, et l'autre qui était beaucoup plus dure, moins à montrer ses émotions, etc. Donc, c'était marrant aussi de se rendre compte que la lingerie, il y a ce truc où c'est quand même étroitement lié à ta personnalité, à ton intimité, etc., et aussi à l'histoire de ton corps. Enfin, bref, donc ça, c'était une première, brique, je sais pas comment on pourrait dire.
Une première réponse, j'ai posé deux questions. Voilà, c'est une première réponse, t'inquiète, j'avais prévu le truc, tu vois. Deux questions, deux réponses, je me suis pas trompée.
Finalement, voilà.
t'inquiète pas, c'est un travail, ça s'apprend.
Et en fait, du coup, moi j'étais vraiment passionnée de lingerie. Et quand j'ai eu l'âge d'en porter, je me suis rendu compte que j'étais dans une niche de taille.
Alors, fait, c'est quoi une niche de taille?
C'est quand tu te retrouves pas justement dans les tailles classiques, les tailles standardisées comme on dit, et qu'en fait, t'as une taille qui sort un peu de l'ordinaire. Donc moi, en l'occurrence, j'ai un petit dos et un bonnet profond. Et donc, je te parle de ça il y a genre 15 ans, et enfin même un peu plus. Et du coup, c'était compliqué à l'époque. Pour les grandes tailles, c'était que dans les rayons mémé, enfin pas du tout...
pas adapté.
Pas adapté, enfin aussi bien... Enfin même, ouais, non, pas adapté en termes de style, de confort. Enfin, ça me ressemblait pas. C'était vraiment une frustration. Parce que moi, limite, j'attendais que ça, d'avoir l'âge de pouvoir en porter. Et ça a commencé à mûrir dans ma tête. J'ai commencé à essayer de comprendre, mais pourquoi ça n'existe pas? C'est trop bizarre. Et en discutant avec des femmes de mon entourage, je me rendais compte qu'on était nombreuses à ne pas trouver de lingerie à notre taille, sans pour autant avoir une morpho si atypique, entre guillemets. Et ça a vraiment commencé à pas me hanter, mais à me questionner. Et comme c'était une frustration, bah ça me lâchait pas. Et donc du coup, j'ai commencé à... Enfin, je sais pas que j'ai commencé, c'est que du coup, j'ai fait une école de commerce de mode, avec toujours dans cette idée de un jour lancer une marque de lingerie.
Ouais, donc en fait, c'était vraiment là, ça t'a pas lâché.
Ouais, non, ça m'a pas lâché.
Donc c'est pour ça que t'es allée en école de commerce.
Ouais, ouais, exactement. Ouais, ouais. En fait, pendant un moment, j'avais hésité avec le design, mais mon papa était militaire et donc il m'avait dit oui, les débouchés, c'est pas possible et tout. Enfin bon, bref. Donc je m'étais dit ok, école de commerce de mode. Et je pense que je devais saouler tout le monde dans ma classe, les profs et tout, parce que toutes mes thématiques de mémoire, c'était sur la question. Vraiment, genre, pourquoi les marques ne l'ont pas?
Mais t'étais concentré, le focus, il était là.
Non, non, mais tu sais, l'étude de marché, elle a été faite il y a plus de 10 ans, en fait.
Non, carré, c'est propre. Ouais, tu savais où est-ce que t'allais. On peut pas te blâmer, ouais. Parce que tu sais où est-ce que vrai. Tu vas. Tu vois ce que je veux dire? Je te tire mon chapeau.
Ah ben, merci. Mais du coup, il y avait ce truc où j'essayais de comprendre vraiment pourquoi les marques le faisaient pas et comment on pourrait le faire. Et ce qui était bien dans cette école, c'était qu'on pouvait... On avait plusieurs stages à faire et moi, j'ai besoin d'avoir cette espèce de vision globale pour comprendre comment fonctionnent les choses. Et du coup, j'ai essayé de diversifier pas mal mes expériences. J'ai fait un peu de B2B, un peu de B2C, de l'achat matière, de la vente en multimarque, vendre des collections pour des jeunes créateurs.
Prendre un peu des ouais, expériences, des retours un peu à droite,
ouais,
à gauche.
Ouais. Même, tu sais, en bureau de tendance, pour vraiment comprendre du début à la fin. Et j'ai aussi fait pas mal de ventes. Et notamment, j'ai été vendeuse... pour une marque de lingerie, pour payer mes études. Et encore une fois, quand les femmes rentraient dans la boutique, il y avait toujours des nanas qui disaient « De toute façon, ça ne sert à rien que je regarde, il n'y aura pas ma taille. » Et dans ma tête, je me disais « Bah oui, moi aussi, il n'y a pas ma taille. » Mais j'essayais toujours de trouver un moyen pour qu'elles ressortent quand même contentes, etc.
Donc, c'est venu te confirmer que tu n'étais pas la seule dans ton délire.
Exactement.
Ça t'a fait du bien ou pas?
Bah, en fait, ça me... Enfin, c'est pas que ça...
Ça a augmenté la frustration.
Ouais, exactement.
C'était non, ça t'a ça, pas fait du bien.
Non, ça m'a pas fait du bien. Je me suis dit, mais putain, ils sont cons, quoi. Enfin, bref, je devrais peut-être pas dire ça, mais...
Non, tu peux, on est libre ici, hein.
Mais c'était ce truc où je trouvais ça aberrant, en fait, que ça existe pas. Et OK, c'était peut-être d'un point de vue... Enfin, je sais pas, sous un angle capitaliste, rentabilité, etc. Alors oui, c'est pas une majorité des femmes, mais en fait, elle existe, cette cliente. Et je pense qu'elle est d'autant plus frustrée qu'elle sera d'autant plus fidèle, parce que si elle y trouve son compte, bah, elle sera contente et elle aura envie de revenir. Et enfin,
c'est ça, quand tu combles un besoin...
Ouais, voilà. Et d'autant plus quand c'est un besoin qui est, ouais, qui est pas comblé depuis des années, quoi. Enfin bon, bref. Mais donc du coup, il y avait ce truc-là dans ma tête, toujours... Mais bon, bah, je continue à travailler, etc. Donc, je me retrouve à être salariée. Je travaille pendant plusieurs années dans le textile, mais plutôt dans tout ce qui est achat, production, coordination de collection.
L'objectif reste le même.
Oui, l'objectif reste le même. En fait, c'est toujours un truc de fond. Mais je sais pas, dans ma tête, je me disais, oui, bah, quand j'aurai 40 ans, j'aurai de la bouteille, je le ferai. Enfin, non, mais j'aurai rencontré quelqu'un qui sera technique, qui saura coudre, faire des patronages, qui aura le même projet que moi. Bien sûr, et on s'associera, et puis voilà. Enfin, bref,
ouais, bah c'était la version idyllique,
ouais.
Pas du tout passé comme ça, je me doute, mais je te laisse, tu vois. Je t'en prie, raconte.
Voilà, et donc du coup, c'était comme ça. Et en fait, il y a cet été, ça fera 4 ans, j'ai eu des problèmes de santé, j'ai été hospitalisée. Et pourquoi je parle de ça? Parce que ça a été déjà un premier déclic. Parce que je pars du principe qu'on ne vit pas les choses sans raison, qu'il y a quelque chose à transformer, à comprendre. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, quand je suis à l'hôpital, je me dis « Pourquoi je vis ça ? » Enfin, « Pourquoi je vis ça ?» Enfin, le corps, il somatise beaucoup, il exprime aussi plein de choses. Et je me rends compte en réfléchissant que ouais, je ne suis pas vraiment en accord avec mes valeurs, que je me sens pas forcément épanouie, je ne suis pas dans quelque chose qui me plaît, etc. Et ça faisait même pas un mois qu'on était ensemble avec mon chéri. Et donc, quand je sors de l'hôpital, etc., bref, il me présente à ses potes que je ne connais pas. et qui me demande bah, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Donc là, je dis bah, je suis responsable de collection pour une marque de prêt-à-porter.
Ouais, on sent l'enthousiasme, mais blasé. À zéro.
Ouais. Ouais, exactement. Et les gens ils disent mais ça a l'air stylé comme job, pourquoi t'es blasé et tout. Et c'est là où je dis bah, moi, mon rêve, c'est de faire une marque de lingerie pour toutes les morphos, y compris les personnes avec un handicap. Et mon mec me regarde, il me dit bah, pourquoi tu le fais pas ? Je suis là en mode bah, pourquoi tu me dis ça ? Enfin, je sais pas, écoute, enfin, tu me fais chier, toi. Genre, bah, je sais pas, alors, je suis jeune, enfin, j'ai 24 ans, enfin, à l'époque. Bref, et du coup, je me dis ouais. Et en même temps, je me dis mais il me fait chier avec ses questions, mais d'un autre côté, bah ouais, il a peut-être pas tort en fait.
En fait, il a identifié
exactement les propres limites en fait, enfin, les propres freins et barrières qu'on se fixe, enfin, qu'on se met tout seul. Et j'en discutais avec des copines. Et elles me disent, mais ouais, Delphine, c'est maintenant qu'il faut que tu le fasses, c'est pas quand t'auras 40 ans, nan, nan, nan. Et encore que voilà, pour moi, il n'y a pas d'âge pour faire une reconversion, quoi que ce soit. Mais du coup, je me dis, ouais, ok, ils ont peut-être raison, enfin, ça a mûri, je continue à faire mes allers-retours à l'hôpital, enfin, bon, bref.
Et... Ça t'a laissé du temps pour cogiter, hein, ces allers-retours, je l'entends à ta voix.
Vraiment, et c'est surtout que, en fait, je sais pas, genre, peut-être 3 mois après mon hospitalisation, avec mon copain, je dis, bon, là, ça serait peut-être bien quand même de partir un peu en vacances, histoire de changer les idées. L'été était hyper lourd et tout. Et ça faisait même pas 3 jours qu'on était arrivés en vacances. Et là, accident, on tombe en quad dans un ravin. Bref, l'été trop chaotique.
La vie qui te dit, t'as pas compris.
Exactement.
Tu sais quoi, deuxième round. Bam.
T'as besoin vraiment qu'on te dise les choses. Non, mais, et
c'est bouché, en fait.
C'est vraiment ça. Mais je l'ai pris comme ça. Je l'ai vécu comme ça, en mode, ok, c'est bon, j'ai compris. Je vais prendre des cours quand je rentre, pas de problème. Bon, j'ai quand même eu 7 mois de rééducation après avec ma jambe et tout. Mais en vrai, on s'en est sorti presque indemne. Et c'est surtout que quand je nous ai vus partir dans le ravin, je me suis dit littéralement, eh merde. J'ai pas le temps de me dire autre chose. Mais tu te dis, putain, ça s'arrête comme ça, là. Enfin, c'est trop con. J'ai rien fait qui m'a vraiment transcendé. Enfin... Trop naze, quoi. Enfin, vraiment trop naze.
Mon père, il disait toujours, la vie, c'est rien.
Ouais.
Tu vois, et c'est tout à la fois. C'est super paradoxal.
Ouais.
Tu vois.
Carrément. Mais bon, du coup, cet épisode-là, enfin, ces épisodes-là, c'est vraiment ça qui m'a mis un coup de pied aux fesses et qui me fait dire, ok, bah, tu sais pas coudre. Ok, la lingerie, c'est ce qu'il y a de plus technique et de plus compliqué, mais c'est pas grave. Après, ce que moi, j'avais identifié pendant toutes ces années, c'était qu'il fallait quand même revoir la manière de concevoir une collection et partir de l'humain. Et pas imposer une collection qui, après, va à peu près s'adapter aux gens. Et ce qui me freinait par rapport aux formations, c'était que je ne pouvais pas reprendre un cursus classique parce que les écoles, ils te forment à l'industrialisation de masse, la production en série, les tailles standardisées.
Pour que tu rentres dans les cases.
Ouais, exactement.
Tout ce que toi, tu voulais pas faire, tout ce que toi, t'as saoulé, a augmenté ta frustration.
Et donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis rapprochée d'artisans créateurs qui faisaient eux-mêmes du sur-mesure et du montage haut de gamme et justement me rapprocher de personnes qui avaient ces connaissances-là, ce savoir-faire qui était... Bah, qui a commencé à un peu disparaître ou en tout cas à se délocaliser. Et du coup, je me suis formée au début en parallèle de mon ancien travail. Puis à un moment donné, j'ai failli faire un burn-out. Donc le troisième message...
Troisième round, let's go.
Exactement, et là je me suis dit, ok Delphine, bon là, ce serait peut-être temps quand même de te consacrer à...
T'es têtue.
Ouais. Enfin, en fait, je dirais pas têtue, je dirais opiniâtre. Tu vois, genre je lâche rien, tu vois. Mais bon, enfin, en même temps, ça se rejoint un peu.
J'attendais que tu termines pour dire oui, t'es têtu, c'est une autre manière de le dire. Voilà.
Mais ouais, effectivement. Et donc, du coup, je finis par négocier une rupture conventionnelle. Et top. Pendant un an et demi, je continue à me former, à prendre des cours,
même
à prendre des cours de gestion. Ouais, exactement. Prendre des cours même de concept de collection, d'autres choses en complément, etc. Et au bout d'un moment, j'arrive un peu au bout de mes économies. Je me dis, ok, Delphine, t'as ce projet en tête depuis plus de 10 ans. Très bien. Mais tu sais pas si ça va parler aux gens, en fait. T'es persuadée qu'il y a un marché à prendre et tout, mais il faut quand même que tu te confrontes à la réalité. Et du coup, je décide de faire une campagne de financement participatif avec KissKissBankBank, où là, je me fais une promesse et je me dis, si j'atteins mes paliers, je continue. Et sinon, je continuerai en mode hobby, mais je cherche un taf à côté.
Tu t'es engagée avec toi-même.
Ouais, exactement, ouais. Chose qui n'est pas facile parce que je me fixe toujours un peu des objectifs qui sont difficilement atteignables, très exigeantes et tout. Et du coup, il y a toujours ce truc aussi où tu as peur de te décevoir. Enfin bon, bref.
Comme on disait tout à l'heure, perfectionniste.
Voilà, exactement.
Une super maladie.
Voilà. Bref. Et donc, du coup, la campagne marche super bien. Donc, c'est trop cool. Après, je ne vends pas une collection, en fait. Je vends vraiment un concept. J'explique genre ce que c'est, ma vision des choses, ce sur quoi je travaille depuis un an et demi, etc. Tous les modèles que j'ai pu développer, même en sur-mesure, sur des femmes de mon entourage, etc. Et en fait, ça prend. Il y a le salon de la lingerie qui me contacte pour participer à l'édition de janvier. Donc ça,
ah, donc c'est eux qui viennent te chercher?
Ouais. Mais en même temps, le truc un peu fou, parce que quand j'ai lancé Maison Finou, j'étais un peu dans un état d'esprit où j'étais vraiment focalisée sur le sur-mesure. Et je pensais pas forcément que ça allait prendre comme ça dans la foulée, que ça allait être un enchaînement d'opportunités, etc. Et comme moi, je suis quelqu'un de très enthousiaste, bah du coup, quand il y a un projet qui me plaît, bah je dis « Ok, d'accord, on y va !» Enfin, un peu genre tête brûlée, tu vois. Et après coup, tu te dis « Ah merde, et puis bon, ça, je l'avais pas vu venir. » Et puis, t'as les pots cassés parfois. Mais voilà, enfin, après, c'est des expériences.
T'apprends en marchant.
Exactement. Et bon, bref, et donc du coup, tout s'est un peu enchaîné. Et en fait, la campagne, c'était mi-octobre à mi-novembre 2019. Dans la foulée, il y avait les grèves, les gilets jaunes, et premier confinement et crise sanitaire. Donc voilà. Et c'est surtout qu'en fait, ça s'est un peu enchaîné. Et là, ça fait un an et demi, du coup, que Maison Finou a lancé et officiellement. Mais j'ai l'impression que ça fait un an et demi, mais que je suis encore en train de tester les process que je vois et que aussi par rapport au retour que les gens font, je continue d'affiner tout ça. Et c'est ça qui est chouette aussi, parce qu'en fait, on est encore sur un début et qu'il y a encore tout à faire. Et...
Ouais, on sent qu'on est au démarrage.
Ouais, exactement.
Les perspectives sont belles.
Ouais, et en même temps, il y a plein de choses à faire. Et c'est toujours ce truc aussi, je trouve, quand t'es perfectionniste et exigeant, c'est difficile de regarder déjà le chemin parcouru, parce que t'es toujours focalisé sur tout ce qu'il y a encore à faire. Et il y a aussi une réalité, c'est qu'on n'a que deux bras quand on est tout seul et que voilà, on peut pas faire plus qu'eux. Et accepter aussi que les choses prennent du temps. Et donc, du coup, c'est un peu tout ça, quoi. Enfin, le mood, mais très contente de continuer à travailler sur ce projet, de ne pas avoir lâché, de m'écouter, en fait, depuis toutes ces années et d'avoir réussi à le lancer, quoi. Et on verra pour la suite. Mais,
ouais, mais en fait,
t'as
tenu ton engagement que tu t'es porté à toi-même.
Mm.
Ça a été dur pour toi, ça, ou pas? De tenir ton engagement, parce que des fois, bah, c'est un peu comme, tu sais, les résolutions qu'on se fait le 31.
Ah ouais, oui.
Et que le 7, t'as lâché.
Alors, non, c'est pas dur au quotidien de se motiver. En fait, il n'y a même pas une histoire de « putain, il faut que je me motive ». C'est pas ça. Il n'y a jamais de problème pour se lever le dimanche à 7h, par exemple, et mettre derrière les machines et bosser. Ça, il n'y a pas de problème, ou faire des nocturnes et tout. Ça, sur ça, je pense que c'est quand même une chance, c'est que je suis de nature une grosse bosseuse et du coup, ça aide. Après, ce qui est dur, je pense quand même au quotidien, c'est parfois des pensées parfois un peu limitantes ou les doutes qui viennent te mettre un peu des bâtons dans les roues et qui te ralentissent alors que t'es sur, je sais pas, comment on pourrait dire, une métaphore, tu vois, enfin, t'es en train de...
T'es en train de tout arracher.
Ouais, t'es en train de courir à fond et d'un coup, je sais pas, tu te prends un gravier, quoi. Enfin, tu vois, c'est plus ça. Mais les promesses que je me fais et la foi en le projet, etc., ça se perd pas. Enfin, en tout cas, ça, sur ça, non.
Tu l'alimentes au quotidien.
Ouais, exactement.
Et t'as un exemple concret de barrières limitantes, de doutes, de peurs qui, justement, t'ont ralenti, qui ont été des graviers sur ton chemin?
Bah, tu vois, une des premières, entre guillemets, c'était peut-être ce truc de se dire... Mais je sais pas coudre, je sais pas faire de patronage. Du coup, il faudrait trouver quelqu'un pour le faire avec moi ou te dire que t'as peut-être pas les épaules pour ou j'en sais rien. Tu vois, c'est plus ces trucs-là qui, déjà au départ, font que... Après, bon, je dis ça, c'est toujours compliqué de se lancer, encore plus quand t'es salarié, que tu vois, t'as un job aussi avec des responsabilités qui est intéressant et tout. Te dire, OK, là, je suis arrivée à un niveau de ma carrière où les postes que j'aurai, ils seront tous plus intéressants que ceux que j'avais jusqu'à présent. Et te dire, bah, je lâche tout pour essayer de réaliser un rêve et t'as aucune garantie que...
T'as que ta foi.
Ouais, exactement. Et voilà, tu crois en toi et puis voilà, il faut y aller.
Mais tu sais quoi, tu viens de le dire, c'est croire en soi et croire en ses rêves. Si t'as pas ça, bosseuse ou pas, le projet, tu l'alimentes pas en fait.
De toute façon, ouais.
Tu vois, au niveau de la motivation, du quotidien, comme tu dis, pour se lever le dimanche ou pour faire des nocturnes le mardi soir, si t'as pas foi en toi et en ton projet, je sais pas trop où est-ce que tu vas aller, hein.
Ouais, carrément. Je pense qu'il y a ce truc, de toute façon, quand c'est dans tes tripes, en fait, il n'y a pas de questions qui se posent, tu vois. Il n'y a pas de flemme ou j'ai pas la foi. Enfin, alors bien sûr, ça m'arrive comme souvent d'être très fatiguée et voilà, d'avoir envie de dormir et de te dire, putain, ça serait cool quand même d'avoir un jour off par-ci, par-là. Mais il n'y a pas cette problématique-là parce que je crois à 2000% en Maison Finou. Je suis certaine qu'il y a une vraie demande, qu'il y a un vrai besoin. Ça, j'ai jamais eu de doute.
J'aimerais te demander, qu'est-ce qui se cache derrière le nom Maison Finou? Ça m'intrigue, tu vois ou pas?
Bah, alors, en fait, Finou, c'est le surnom que ma grand-mère Odile, qui m'a transmis la lingerie, m'a donné à ma naissance. Et ce qui est trop drôle, c'est que ce surnom, il m'a toujours collé à la peau, on va dire. Et même au lycée, les gens m'appelaient plus Finou que Delphine. Et quand il y a eu la création de Facebook, etc., je voulais pas mettre mon vrai nom de famille. Et du coup, j'avais mis Delphine Finou. Et en fait, il y a plein de gens qui pensent que c'est mon vrai nom de famille et qui me connaissent plus sous le nom de Delphine Finou que mon réel nom.
C'est fort! Merci, mamie.
Ouais, exactement.
Et je voudrais également te demander, qu'est-ce que c'est que la lingerie-thérapie? Ça m'a intrigué quand je suis allée sur le site internet. Mm-hmm. Qu'est-ce que c'est?
Alors, pour moi, le concept de lingerie-thérapie, c'est vraiment un temps d'écoute, d'échange. C'est comprendre l'histoire de la personne, son rapport au corps. Et c'est justement, à travers plusieurs rendez-vous, développer une parure qui ressemblera à la personne et qui lui correspondra, dans laquelle elle se sentira bien et mise en valeur. Et ça, c'est pas en un rendez-vous que tu l'as. C'est pour ça que je parlais aussi de thérapie. C'est parce que c'est hyper important pour moi de comprendre, en fait, le rapport au corps de la personne, son histoire, parce que ça a souvent aussi un impact sur tout ça, sur sa vision des choses. Et aussi tenir compte de, bah, comme je disais au tout début, si elle a des complexes, bah, comment y remédier, ou en tout cas, s'il y a des choses qu'elle aimerait mettre en valeur ou qu'elle aime particulièrement, bah, les mettre justement plus en avant pour qu'elle se sente d'autant plus belle. Et ce qui est chouette, en fait, autour de ces... Enfin, au fur et à mesure de ces rendez-vous, c'est que je me suis rendu compte que les femmes ou même les hommes maintenant, parce que du coup, il y a une petite ligne homme qui est en train de se développer. Bref, gagne en assurance au fur et à mesure parce qu'ils se disent « Bah ouais, on est vraiment en train de faire quelque chose qui me correspond, dans lequel je me sens bien. » Et voilà, et c'est aussi de l'échange, du partage. Et c'est un moment, je pense aussi, que tu t'octroies à toi-même. Donc je pense que même quand tu viens chez Maison Finou, c'est que derrière, t'as envie de te faire du bien, en fait. Et je pense que c'est tout ça, c'est un mélange de tout ça. C'est aussi l'énergie que la personne va amener là-dedans. Enfin voilà, c'est une rencontre, on va dire.
Si vous voulez du bien-être, mesdames, rendez-vous chez Maison Finou.
Non, mais c'est une expérience, en fait. Je pense que c'est tout ça. Et je pense qu'à travers cette parure, ce développement de modèle, etc., il y a toutes ces valeurs, toute cette énergie, en fait, qui est transmise. Et puis voilà, avec tout l'amour que je mets dedans, même quand je le fabrique. C'est important. Du coup, je pense qu'il y a plein de choses.
Ouais, il y a beaucoup d'éléments. Ça s'entend. Et tu as employé le mot qui caractérise, je pense, tout. C'est l'amour. Quand tu fais quelque chose avec amour...
Ouais, avec le cœur, ouais.
Tu le sens, tu vois. C'est complètement différent. Quand tu vas au McDonald's, il n'y a pas trop d'amour dans ton
menu. Ouais, c'est clair. Ouais, non, c'est clair. Ouais, ouais.
Tu vois pas. Donc voilà. Et tout à l'heure, t'as dit quelque chose qui m'a fait tilt. Comment ça s'est passé pour toi, le confinement, dans le développement de Maison Finou? Parce que j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Donc je voulais savoir.
En fait, ce qui est marrant, c'est que quand j'ai lancé la campagne, du coup, c'était mi-octobre, mi-novembre, tout s'est enchaîné. Ça a été très vite.
Exactement.
Ça a été très vite. Et en fait, un peu limite, le sentiment parfois de ne pas perdre le contrôle, mais un peu où du coup, tu saisis des opportunités, tu n'as pas envie de passer à côté. Et du coup, tu en saisis trop peut-être parfois aussi.
Ouais,
tu vois.
Dis oui à trop.
Ouais, exactement. Et parfois, du coup, tu as des mauvaises expériences. Voilà. Mais c'est normal. Ça fait partie du jeu aussi. Et du coup, le confinement, en fait, je crois qu'il m'a quand même fait du bien parce qu'il y avait ce truc où tu te poses. D'un coup, tu dis « Ok ». D'accord.
De toute façon, là, le temps, il avait ralenti
pour
tout le monde.
Non, mais vraiment, vraiment. Et encore plus juste au premier, je trouve.
Oui, non, le premier, c'était le moment où il fallait méditer.
Exactement.
T'avais la team Netflix et t'avais la team création. Tu choisissais un peu où est-ce que tu voulais te positionner. Et t'avais ceux qui étaient en télétravail et qui étaient en train de charbonner comme des Japonais.
Ouais. Et du coup, moi, ça m'a un peu permis aussi de me poser, de me dire, OK, Delphine, là, il s'est passé ça. Dak, qu'est-ce que t'en fais? Et où tu veux aller, en fait? Parce que c'est aussi ça. C'est, comme je disais, comme c'était pas une collection, mais c'était un concept que je vendais, entre guillemets, que je montrais, sous quelle forme, par rapport au retour que t'as, vers quoi il faut aller, etc. Donc, du coup, c'était un peu ça. Et puis aussi, prendre le temps de plus structurer les choses aussi. Je pense, tu vois. Donc voilà, mais je ne l'ai pas mal vécu. Après, je pense que ça reste quand même compliqué de se lancer en pleine crise sanitaire parce que c'est difficile d'évaluer tes performances, entre guillemets. Et tu vois, et de savoir comment ça pourrait évoluer dans un autre contexte. Et aussi, toutes les actions, ça implique de se réinventer tous les jours.
Ah c'est de la remise en question totale.
Permanente, ouais, exactement.
Parce que là, on est dans le nouveau monde, hein.
Ouais.
C'est ça.
Voilà. Mais en même temps, très stimulant parce qu'en fait, Parce qu'en fait, on n'a pas le choix et que si tu as envie de justement faire partie de ce nouveau monde, bah, il faut aussi s'adapter encore une fois. Et bon, c'est le concept aussi de Maison Finou, de s'adapter. Donc, c'est pas forcément quelque chose que je vis mal. Mais c'est vrai que du coup, ça te laisse aussi beaucoup de temps pour réfléchir, pour bah, tester, voir, du coup aussi te remettre en question, douter. Non, mais voilà, mais ça fait partie de tout ça. Mais voilà, enfin, je crois que j'ai répondu à la question.
T'as répondu à la question avec brio. 10 sur 10, madame. Je sens que pendant ce temps de pause, tu as pu te poser les bonnes questions.
Ok, bah merci.
C'est ce que j'entends, du moins. Mm. Et que ça t'a permis justement de recadrer, de te remettre au centre. Mm. Pourquoi pas dire aussi changer le fusil d'épaule et voir que voilà, peut-être ça, on supprime, ça, c'est peut-être mieux. T'as un exemple concret de quelque chose que t'as changé, que tu faisais avant et que bah, justement, que tu t'es rendu compte que si tu voulais accéder au nouveau monde, c'était plus possible.
Je sais pas si forcément quelque chose que j'ai changé...
Ou t'as modifié.
Ouais, alors en fait, ce qui est certain, c'est que par rapport à au début, quand je communiquais sur Maison Finou et que c'était vraiment que du sur-mesure, de la demi-mesure, les gens ont commencé de plus en plus à me demander « mais où est-ce qu'on peut acheter ce modèle ?» etc. Où là, j'ai pris conscience en fait que c'est quand même le comble, mais qu'il fallait quand même que je développe des petites collections en taille standardisée pour que les gens puissent commander aussi à distance ou... où ça m'arrive régulièrement d'avoir des personnes par email ou par téléphone et aussi, même s'ils ne sont pas en région parisienne, d'adapter les patronages à distance par rapport à ce qu'ils me font comme retour, ce qui m'explique. Et en fait, encore une fois, tu te rends compte à quel point l'écoute, c'est puissant et c'est essentiel parce qu'il y a des petits problèmes, entre guillemets, enfin, c'est même pas forcément des problèmes, mais des choses qu'on peut solutionner en un rien de temps ou qui feront juste la différence. Ou parfois tu te retrouves entre deux tailles, bah c'est pas grave, le patronage, hop, on l'adapte vite fait, enfin vite fait, c'est relatif, mais en fait c'est ce temps-là que tu prends pour écouter la personne qui va faire aussi la différence dans elle aussi son expérience et comment elle va se sentir après, parce que elle se sent écoutée, du coup elle se sent, oui je pense elle se sent aussi impliquée dans ce truc et quand tu reçois ton produit et que tu sais que derrière il y a une petite attention particulière ou donc le modèle a été adapté vraiment pour toi, bah, je pense qu'il y a une autre satisfaction aussi, et que tu te dis, bah ouais, ok, c'était peut-être plus cher que ce que j'ai l'habitude d'acheter en règle générale, mais je sais que là, j'ai un produit vraiment pour moi, qui me plaît, dans lequel je me sens bien. Ouais, exactement, ouais.
Tout à l'heure, tu as employé un mot que j'ai beaucoup aimé, tu as dit, c'est de la co-création.
Ouais.
Tu vois pas ce que je veux dire. C'est si tu veux faire partie de la...
Ouais. Non, mais c'est, je pense, primordial d'impliquer les gens aussi dans cette démarche-là. Parce que, en fait, ça fait aussi toute la différence par rapport à ce qu'on voit au quotidien ou même toutes les pubs sponsoring que tu vois sur les réseaux ou du coup, on te vend un produit, mais on ne te vend pas une expérience, en fait.
Et justement, comment est-ce que tu as conceptualisé ton expérience au lieu d'un produit ?
Ce qui est marrant, c'est que, tu vois, j'ai toujours été passionnée de lingerie et il y avait une grosse part de moi aussi quand j'étais plus jeune, même au lycée, où tu sais, tu te poses la question sur la réorientation et tout, qui avait envie de bosser dans le social. J'avais vraiment envie de bosser en social, sauf que je suis quelqu'un d'ultra empathique. Et qu'en fait, je me disais, mais putain, je vais pas pouvoir faire ce métier, sinon je vais être bouffée, je vais chialer tous les soirs, je vais être déprimée. Non, mais vraiment, tu vois. Et
c'est bien de le reconnaître, parce qu'il y en a plein qui n'ont pas vu ça avant de se lancer. Ouais, et qui, bah, non, tu vois, mais... aujourd'hui, elles se disent, waouh, ouais. Je savais pas qu'il fallait que je mette autant de... Enfin, ouais. Une certaine distance,
ouais,
tu vois.
Des barrières pour se protéger,
oui, parce que sinon, bah, comme tu dis, tu rentres à la maison avec les problèmes du monde entier sur ton dos. C'est compliqué.
Et comme moi, de base, je suis quand même une éponge. Du coup, il y avait ce truc où je m'étais dit, bon, on va pas vers cette voie parce que ça va être trop compliqué. Mais ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'avec Maison Finou, j'ai réussi à allier et ma passion et, tu vois, des compétences, entre guillemets, professionnelles que j'avais... acquéri tout au long de ma carrière, et ce côté aussi plus humain qui, moi, me manquait dans ce secteur, qui est quand même un secteur très compliqué, enfin celui du textile, ou en tout cas où c'est un peu déshumanisé, où le bien-être des gens passe après, entre guillemets. Et là, à travers Maison Finou, c'est un mélange de tout ça, enfin, ouais, je sais pas si je réponds à la question, mais en tout cas, c'est un peu le concept, tu vois.
J'aime trop quand tu me demandes si t'as répondu à la question. Non. On est bon. Je me posais la question parce que généralement, quand j'échange avec des entrepreneurs, j'entends rarement justement le mot expérience. Ou du moins, quand j'entends des discours d'entrepreneurs, on entend plus le mot produit que expérience. Tu vois, et ça fait...
Ok.
Je trouve que c'est justement ce qui fait la distinction. Tu vois, quand t'achètes un iPhone, moi je suis team Apple, hein, on va pas se mentir. Les mecs, c'est une expérience. Quand t'ouvres
Mais vraiment.
Quand t'ouvres la boîte de ton iPhone ou quand t'achètes un Mac... C'est quelque chose quand même.
Tu vois. Bah déjà, ça s'est bien vidé sur ton compte en banque.
Ah mais tu comprends pourquoi. Ouais, ouais. Tu vois, je sais pas pour les autres marques, non, parce que ça fait 10 ans que je suis sur, en mode iPhone. Mais en gros, tu sens vraiment la différence. Et c'est ce qui fait que bah, les types, ils ont réussi à me garder 10 ans, moi, et plein d'autres personnes sur la planète. Parce qu'en fait, à chaque fois, bah, c'est une expérience, tu vois. Donc, je trouve ça fort que justement, tu aies pu allier, comme tu dis, ces deux passions, ces deux choses qui t'animaient, parce que c'est assez difficile. Tu vois, quand tu choisis une voie, de se dire... Mais j'aime aussi ça.
Ouais.
Comment on fait la corrélation pour que, tu vois, les deux puissent s'unir?
Bah voilà, du coup, j'ai fait ma recette.
Et justement, quelle est la suite pour Maison Finou sur les prochains mois, les prochaines années? Où est-ce que tu le vois l'amener?
Bah du coup, ce qui serait chouette, c'est de vraiment pouvoir développer un atelier showroom. Parce qu'en parallèle de ça, du coup, là, je m'éloigne un peu du sujet de base, mais je travaille aussi avec d'autres jeunes marques qui se lancent et avec justement tout le réseau de couturières indépendantes que j'ai aussi développé autour de Maison Finou. On accompagne d'autres marques de lingerie justement pour créer leur collection, produire les pièces en petite quantité. On n'impose pas de minimum de quantité parce que ce qui est aussi compliqué aujourd'hui dans le fait de consommer mieux et d'acheter de façon plus responsable, c'est que derrière, les entreprises n'ont pas forcément les outils de production pour. Je m'explique, les ateliers de confection, les usines, en fait, vont imposer des minimums de quantités qui sont toujours trop grands, en fait. Enfin, surtout quand tu te lances au départ, hein, qui implique d'avoir beaucoup de trésor ou en tout cas de créer plus de stock que ce que tu vas vendre. Et là, l'intérêt, le but, c'est vraiment de pas contraindre ces petites marques et de leur permettre, en fait, de se développer petit à petit et de développer un vrai outil, un vrai atelier de production. En tout cas, en toute petite quantité à Paris, quoi. Donc, du coup, il y a aussi ce projet-là qui est étroitement lié aussi à Maison Finou. Ça me tient aussi à cœur. Donc, j'aimerais bien faire évoluer Maison Finou aussi avec ce projet. Et peut-être développer un peu plus quand même le B2B, commencer à vendre aussi peut-être en multimarque. Là, je commence sur des marketplaces et donc commencer à développer, peut-être m'orienter un peu plus aujourd'hui sur... J'aime pas utiliser le mot stratégie parce que je suis quelqu'un d'hyper spontané, nature, et du coup, il n'y a pas de trucs qui sont calculés. Mais d'un autre côté, je me dis, ça serait bien quand même de commencer à développer un peu plus la partie plus commerciale aussi, quoi. Pour la faire grandir, en fait, et que ça ne s'arrête pas où ça en est et pas rester tout petit, quoi.
Donc, il y a quand même une vision que ça puisse...
grandir un peu quand même.
Ok, d'accord, top. Écoute Delphine, je te remercie beaucoup pour notre échange.
Bah,
ma dernière question pour toi, ça serait... Quelle est ta définition de l'échec?
La définition de l'échec... Je pense qu'il y a peut-être différentes façons de le voir. Déjà, je pense que l'échec, c'est un ressenti. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est peut-être quand tu avais une vision ou en tout cas un objectif et que tu ne l'as pas atteint de la façon dont tu le voulais ou qu'il y a eu des choses qui n'étaient pas prévues qui se sont passés et qu'en fait tu le vis pas très bien, enfin sur le moment on va dire. Et après, comment tu fais pour transformer encore une fois cette expérience pour en tirer le meilleur? Parce qu'un échec, c'est pas forcément quelque chose de négatif, au contraire c'est quelque chose on apprend toujours de nos erreurs entre guillemets, quoi. Enfin, donc voilà. Et en même temps je dis ça de nos erreurs, mais parfois c'est des choses qui ne dépendent pas que de nous, en fait c'est plus une situation. Donc voilà, je m'éloigne un peu du sujet, mais voilà, ça sera un peu ma définition de l'échec. Je pense que c'est aussi un ressenti.
Merci beaucoup, Delphine.
Merci.
Until next time, faire more, faire better. Let's go!
T'as aimé le show et tu souhaites nous soutenir? Mets un commentaire et ton meilleur 5 étoiles sur Apple Podcast.
Thanks for the love and support. I appreciate it.